Alors, comment je suis juste avant d'entrer en scène? C'est vrai que je commence le spectacle. Souvent, on me demande si c'est intimidant. Ben, bizarrement, non. En fait, je suis très, 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 très calme, mais presque comme si j'étais en hibernation. Et je crois qu'en fait, ça vient du fait que Emmanuel Mérieux m'a tellement demandé dans le travail de c'est pas à moi d'être émue, c'est aux autres, que c'est comme si je me plongeais dans un bain-marie. Et l'émotion qui doit sortir, d'abord je la connais pas, elle sortira ce qu'elle sortira, c'est pas à moi de la pousser, je suis pas une montreuse. Et donc, en fait, je suis comme, je pense un peu comme avant les jazzmen, juste avant de commencer un truc, ils savent que ça aura lieu, mais ils savent pas ce qui va avoir lieu. Voilà. Et puis très souvent, juste avant d'entrer, il y a Emmanuel qui vient et il me serre la main très 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 fort. Même une fois, il m'a cassé la côte tellement il m'a serré fort. Mais c'était juste comme un entraîneur qui dit vas-y un coureur quoi. Et voilà.
Emmanuel Mérieux, vous cassez les côtes des comédiens au début du spectacle.
Je contrôle pas ma force et ma tendresse, apparemment, ouais, ce soir-là. J'ai des débordements d'enthousiasme. Mais non, c'était involontaire. Mais c'est un moment très beau et très privilégié, ce moment-là, avec Anouk, parce qu'on est juste derrière le décor. On sent la foule, on sent le public. Et c'est un moment très particulier. C'est un moment, moi, que j'adore avant que le spectacle commence.
Et c'est quoi la particularité, Anouk Grimbert, de savoir que les mots qui vont être prononcés, ils sont liés quelque part à une vie réelle?
Ça oblige à encore plus de vérité, donc encore plus de modestie. Ça oblige, en tout cas moi, c'est ça que ça me fait, ça me donne envie de pas faire l'actrice. Ça me donne envie d'être juste une fenêtre propre. Par où passe la vie d'un autre et le courage d'un autre, d'une autre. Ça me donne envie d'être une interprète dont l'instrument déraille pas. Moi enfin tous les acteurs ont des défauts, ont des tics. Et sur ce travail en particulier, j'avais vraiment envie de les chasser parce que tous les soirs, je me fais une sorte de prière d'être simple.
Il est 20h sur France Culture et la vulnérabilité, finalement, elle a des mots puissants. La fragilité, elle se raconte, on peut la représenter. Au théâtre, on peut faire exister ce qui pourrait être autrement. On peut prendre des mots du réel et en faire des mots de la scène. Emmanuel Mérieux aime les récits, il aime les voix qui témoignent, celles qui mettent des mots sur des silences. Alors il rêve à des acteurs, il fait entrer les mots sous leur peau, sur mesure, et il en fait les dépositaires de ces histoires qui manquent. Anouk Grimbert est la première à entrer sur scène dans La fin de l'homme rouge, adaptée du livre de Svetlana Alexievitch, qui fait parler les femmes et les hommes soviétiques. Elle pose la question essentielle, c'est quoi un homme libre? Personne n'a la même réponse. Ceux qui racontent n'ont pas voulu renoncer à une histoire grandiose pour vivre une vie banale. Ils n'ont pas voulu de cette liberté dont ils ne peuvent rien faire. Dans le théâtre de Richard Maxwell, figure de la scène américaine contemporaine, les voix viennent relayer des histoires de la cité. Elles jouent le jeu de tout reconstituer, comme dans sa pièce dévoilée, ancrée à Aubervilliers, en France. Il a fait parler des habitants, il leur a demandé ce qu'ils rêveraient de faire s'ils avaient les clés du théâtre, et la pièce est née pour recomposer l'itinéraire d'un homme en exil, qui arrive avec espoir à Aubervilliers et qui ne veut pas repartir en sens inverse. Alors la rue, le réel, les corps qui entourent le théâtre arrivent sur scène. C'est quoi un homme libre ? La question revient souvent, et alors s'éclaircit pendant un moment la vision de ce qui pourrait être autrement.
Mmh.
Nous sommes avec le metteur en scène Emmanuel Mérieux et la comédienne Anouk Grimbert pour parler du spectacle « La fin de l'homme rouge ». C'est au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris jusqu'au 2 octobre. Nous sommes avec le metteur en scène américain Richard Maxwell qui présente au Théâtre de la Commune à Aubervilliers la pièce dévoilée du 26 septembre au 6 octobre. Il parle français ce soir grâce à Nicolas Elliott. Avec nous en studio, Moussa Doucouré, acteur de la pièce et habitant d'Aubervilliers. Il y a en studio avec nous une autre voix, Charles Bourdon du projet Youngerson. Il sera en concert le 25 septembre à l'International à Paris et l'album à venir s'appelle Islands. C'est tous en scène sur France Culture et ça commence par la voix de Svetlana Alexievitch.
Je me souviens quand j'écrivais, quand je faisais ce livre, la première publication de ce livre était en russe, la première édition russe. Mes amis, mes écrivains me disaient, mais non, nous vivons dans un pays démocratique, c'est un pays tout autre que celui où nous avons vécu. Tu as choisi les mauvaises personnes pour les interroger. Mais moi, qui ai traversé tout l'espace post-soviétique, je leur disais, il n'y a pas de démocratie chez nous, il n'y a pas d'homme libre chez nous. Et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui en Russie, cela nous raconte que justement ce complexe de vexation vécu par ce petit homme rouge, ce complexe sort aujourd'hui. Aujourd'hui, ce petit homme rouge cherche à prendre sa revanche. Ils cherchent... En Crimée, pourquoi ont voté les gens ? Ils ont voté pour une utopie, ils n'ont pas voté pour la Russie d'aujourd'hui. Ils ont voté pour quelque chose qui n'existe pas, il ne peut pas exister. Donc, toutes ces voix que j'ai entendues, que j'ai choisi de représenter dans mon livre, ces voix nous avertissaient de ce qui allait se passer. Et d'où toute cette cruauté, d'où cette frontière très fragile entre la paix civile et la guerre civile. Alors aujourd'hui, au sein de la société russe, si on parle avec des personnes normales, des personnes qui ne sont pas happées par cette hystérie de la Crimée est à nous, ces personnes se sentent en danger, pressentent en danger plutôt.
Emmanuel Mérieux, on entendait la voix de Svetlana Alexievitch qui parlait donc de ses récits, de ses voix qu'elle a recueillies. Vous avez fait des études de droit, de philosophie, et puis ensuite vous êtes passionné pour les récits. D'où c'est venu cet attrait des récits, des histoires qui ont souvent lien à la fragilité, mais qui paradoxalement ont des mots très forts et puissants pour l'exprimer?
C'est une question un peu personnelle, donc je vais répondre voilà, sur ce registre-là. Là, par rapport au récit, en l'occurrence, de la fin de l'homme rouge, j'ai grandi au milieu de prêtres ouvriers, de guerriers latino-américains que ma mère a accueilli en France par Amnesty International. J'ai grandi dans cette utopie. Je me souviens de Tchernobyl, je me souviens de la chute du mur. J'ai vu ce monde, ce rêve, cet idéal qui est celui de mes parents et qui est devenu le mien et que je porte en moi disparaître. Je le vois disparaître chaque jour un peu plus. Je sais pas vivre sans un idéal plus grand que moi. Je sais pas faire ça. J'ai été bouleversé par les récits de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants parfois qui savent pas renoncer à leur absolu. Voilà, parce que l'idéal qui m'est proposé aujourd'hui, une Rolex c'est pas un absolu, une Mercedes c'est pas un idéal. J'ai vu toutes les valeurs et que je porte en moi, et c'est pas un choix, violées et massacrées, je les vois encore violées et massacrées. Là par exemple en France on a trois gouvernements et trois gouvernants qui portent en eux profondément la haine des pauvres. Que ce soit la Rolex de Sarkozy, les cendants de François Hollande, ou ceux qui ne sont rien et les derniers de cordée d'Emmanuel Macron, on sent bien que derrière tout ça, il y a une haine profonde, sincère et féroce des pauvres. Moi, on m'a appris tout le contraire. On m'a appris tout le contraire à travers l'utopie communiste, à travers aussi une foi catholique particulière, qui est celle de la théologie de libération, qui est une lecture marxiste de la Bible. Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume de Dieu. Donc tout cet idéal est chaque jour quotidiennement massacré. Donc évidemment, dans ces récits-là, il y avait des résonances personnelles, fortes, voilà, fortes. Cette déchéance-là, je l'ai vue autour de moi.
Et vous parlez d'absolu, d'ailleurs, Anouk Grimbert, c'est vous qui entrez sur scène, donc la première, il y a sept témoignages, cette histoire, et il y a une phrase qui est « on vivait dans l'absolu, on ne parlait pas de la vie », qui arrive très vite dans le spectacle, et on comprend, et qui donne le ton de toutes ces histoires, de ce qu'on va raconter ensuite. Il y a vous êtes une femme qui a perdu son fils, et puis ensuite il y a le meilleur ami qui viendra et qui dira « on a eu une enfance communiste et puis une vie capitaliste, et donc il y a un endroit où c'est pas possible ».
Mais avant de travailler sur ce spectacle, je pensais que les gens qui s'étaient libérés du communisme étaient des gens libérés. Et ce qu'on comprend avec ce spectacle ou simplement à la lecture du livre de Svetlana Alexievitch, c'est que c'est beaucoup beaucoup plus compliqué quand un peuple est libéré du communisme et qu'il entre dans une société capitaliste, il passe d'une torture à une plus grande torture. Il passe d'une prison à une prison beaucoup plus féroce où là vraiment l'humain existe plus. Quand on entend dans le texte cette femme qui dit on vivait dans l'absolu, c'était un temps qui est pas un temps féerique, qui est un temps qui a vraiment existé pour des millions et des millions de gens, où par exemple la communauté humaine, ça avait un vrai sens, où la communauté humaine, elle était en permanence reliée à la culture, où la culture donnait envie de vivre, où la culture faisait rêver, faisait désespérer, mais désespérer au sens rendre humain. C'était des gens qui, pour qui lire était plus important que bouffer, et où c'est un peu couillon de dire ça, mais où être vivant, être soi, c'était une affaire qui se vivait à la verticale. Et où les gens n'étaient pas des loups les uns avec les autres. Et ce que racontent tous ces personnages, mais qui ne sont pas des personnages, qui sont des personnes, ce qu'ils racontent, c'est que ces gens qui étaient des hommes ont été obligés de devenir des loups. Et ceux qui n'ont pas su devenir des loups sont morts.
Et ce qu'elle dit d'ailleurs, c'est que, puisqu'elle enseigne, elle dit à l'école, je sais même plus quel mot je dois dire. Ouais. Donc ça coupe même la parole et les mots, le fait d'avoir
ça
perdu.
Ça coupe la pensée. C'est que quand on n'est plus humain, on ne sait plus qui on est. Et quand on ne sait plus qui on est, alors qu'est-ce que c'est que la parole qui sort de nous ? Moi, je comprends ça que dans les moments où les fondamentaux ont été fracturés, émietté, juste on sait plus de quoi parler et on sait plus qui on est, et pourtant faut continuer de vivre. Et en plus, quand une femme a cru transmettre le bien à son fils et qu'elle s'aperçoit après coup qu'elle lui a transmis tout ce qu'il y avait de plus destructeur et mortifère, on se met à avoir peur de soi-même. De ce qui vient de soi.
Emmanuel Mérieux, la particularité de ces voix-là, c'est que justement, c'est des voix réelles qu'a rencontrées Svetlana Alexievitch. Oui. Ensuite, elle en a fait un livre et vous leur rendez leur oralité, puisque finalement, ça revient dans la bouche de corps et c'est entendu. Oui. Comment ? Parce que vous avez aussi adapté des romans, vous avez fait ce travail d'adaptation souvent. Mais là, c'est un travail particulier de retourner à la voix. Comment vous avez travaillé l'adaptation ?
Alors, de manière générale, l'adaptation pour la scène, comme l'adaptation d'un roman pour le cinéma, c'est pas du copier-coller. C'est pas un montage. Par moi, j'en parle d'un montage. En fait, il y a deux choses à travailler. La langue, effectivement, les mots et leur texture, puisque ce sont des mots qui, en fait, même dans ce cas-là, sont écrits pour être lus, pas, pas pour être dit ni pour être écouté. Donc les mots n'auront pas du tout la même force. Donc il faut retravailler, c'est vrai, la syntaxe, les mots eux-mêmes. Et puis il y a le travail sur la structure, c'est-à-dire sur les histoires. Et là, il faut rescénariser. Et c'est pour moi, sur un spectacle, il y a les deux enjeux fondamentaux, c'est le geste d'adaptation et celui de distribution, c'est-à-dire quel être humain va pouvoir dire ces mots-là, qui sont là en plus les mots d'un autre, des mots authentiques. Il faut savoir que Svetlana, et parfois on lui reproche, ce qui n'est pas du tout mon cas, elle travaille beaucoup, beaucoup ces témoignages. Ils ne sont pas délivrés bruts. Enfin, parfois elle interroge les gens pendant une semaine, deux semaines, elle va en sortir quelques pages seulement. Donc, et à force de travailler et de gratter les mots comme je le fais, parce que je les gratte pendant des heures et pendant des mois, je commence à voir son geste à elle. Donc entre le témoignage authentique et les mots, par exemple, que va dire Anouk, il y a le travail de Svetlana, il y a le travail de la traductrice, il y a mon travail, que je fais d'ailleurs en complicité, par exemple avec Anouk, on a beaucoup travaillé en complicité sur le texte. Il y a tout ça qui se passe.
Parce que vous parlez souvent de ça aussi, de la façon dont un acteur, si c'était pas Anouk Grimbert qui portait ce témoignage-là, peut-être il serait écrit autrement.
Alors, non seulement il serait écrit autrement, mais moi, il m'est arrivé parfois dans les spectacles qui vivent longtemps de devoir changer de distribution, ce qui est normal, parce que les vies correspondent plus, et j'ai changé les personnages. C'est-à-dire que en l'occurrence, si c'était pas Anouk, je pense que ce personnage ne serait pas sur le plateau. Et je fais cette proposition à Anouk parce que c'est Anouk.
Ce dont je me souviens, c'est que quand on travaillait sur l'adaptation du texte, le texte original, il est beaucoup, beaucoup plus terrible que ce qu'on en présente. Chez Emmanuel, il y a deux pôles qui travaillent l'un avec l'autre. Il y en a un où il est aimanté par le drame humain, et il y en a un autre où il est aimanté par la résilience et par la force de la force qu'ont les uns et les autres de résister, de tenir, de traverser la vie. Et bon, et donc il fallait pas que le texte on a choisi pour que ce soit pas suffocant à écouter. Parce que ça compte. Autant un lecteur, il peut poser le livre, autant un spectateur, il peut pas poser le spectacle. Donc il faut le laisser un peu respirer et pas lui envoyer trop dans la gueule de malheur. Donc on a passé au tamis le nombre de malheurs dont elle pouvait parler, elle. Après aussi dans les répétitions, par exemple, Emmanuel, il a une très curieuse façon de répéter. Ça se passe dans notre cuisine. Ah. On est à cette distance-là, comme ça. Et puis, il me dit, dis le texte, tout simplement, comme ça. Et puis, je me souviens, la première fois, alors qu'on parlait juste avant de vacances, de trucs agréables, machin, puis j'ai commencé à lire, et je pleurais. Et il m'a dit, merci. Et maintenant, on va le faire un peu plus calme. Et toutes les répétitions ont été, on va le faire un peu plus calme, et sans que ce soit un ordre, c'était une invitation à être mature, en fait. Et au bout du bout, ça fait que je pense que chaque acteur de ce spectacle n'est pas entamé par ce qu'il dit. Et il me disait une chose très intéressante, et ça, ça vaut pour tous ceux qui témoignent de vraies paroles, quoi. C'est que quelqu'un qui vit quelque chose, il n'est pas spectateur de ce qu'il vit, il le vit. Et quand on est dedans, on tient bon. On est solide. On n'est pas... l'émotion n'est pas première. Et puis je pense que quand on vit des trucs aussi sévères, quoi, le besoin de témoigner est une rampe. Le besoin de mettre de l'intelligence dans le chaos d'un bout de sa vie, ça vous donne une colonne vertébrale, quoi.
Et ça rejoint ce que vous disiez au début de l'émission, Anouk Grimbert, sur la prière à être simple. Et c'est vrai que le dispositif, ensuite, il y a une scénographie qui est importante et on va pas tout raconter, mais vous êtes dans un paysage qui est aussi fort, mais l'adresse,
elle est très simple. Vous êtes, les comédiens arrivent, chaque histoire l'une après l'autre avec un micro et une adresse très simple au public. Et il y a une intimité de la voix aussi, puisqu'il y a le micro.
Oui. Mais vous, quand on a entendu la voix de Svetlana au début de votre émission, on imagine ce que cette voix, cette voix chaleureuse et intelligente, quoi, ce qu'elle... je sais pas, je suis sûre que les gens en face d'elle étaient simples. Qu'ils n'étaient pas en représentation. Ils étaient pas, ils faisaient pas les malins, ils faisaient pas les plaintifs, ils étaient... Je pense qu'elle induit un comportement très digne. Et après, nous, les acteurs, ben, on est comme ce monsieur qui traduit en direct, c'est-à-dire on
Nicolas Elliott qui est en train de traduire dans l'oreille de Richard Maxwell.
Ouais. Ouais. On ne fait que continuer une histoire, quoi. C'est, en fait, les interprètes, ils font que continuer une histoire. Mais elle est inscrite, l'histoire. Donc c'est la seule chose, c'est de se mettre à l'écoute de ce, pas des mots qu'on doit dire, mais de quelque chose qui est, de quelque chose qui vous commande.
Moussa Doucouré, on va parler du spectacle de Richard Maxwell ensuite, mais est-ce que vous vous êtes posé cette question de comment on va transposer quelque chose qui est très familier, peut-être qui fait partie de la réalité, sur une scène de théâtre ?
Je sais pas, parce que je dirais pas que je suis un acteur professionnel dans le travail, que je connais le travail à 100%. Ça serait un peu bizarre de ma part de dire ça. Mais pour moi, le théâtre, c'est comme quelque chose qui donne encore une seconde vie, en fait. Parce que c'est des trucs qui ont daté longtemps, que des gens qui ont repris et fait vivre encore les choses encore. Je pense, pour moi, ça donne un sens encore à dire, bah, voilà, il y a une réalité qui est là, et voilà, on la met au soleil, voilà quelque chose qui existe. D'après l'histoire de Emmanuel, comment, parce que bien avant l'émission, on avait écouté une petite partie d'une voix d'une femme. Et quand tu écoutes tout ça, et qu'il y a longtemps de cela, et que ça ressort maintenant, donc ça veut dire, c'est des choses, on peut faire renaître, en fait. Et donc, moi, c'est pour cela que, moi, le théâtre, c'est quelque chose, ça me plaît, parce que ça fait renaître des choses que, peut-être que ce n'est plus à mon époque, mais aujourd'hui, j'arrive à démontrer ça par le fait de voir une pièce de théâtre. Je prends un exemple, c'est Don Juan. Pour de vrai, moi, je connaissais pas Don Juan. Mais le fait de partir, aller regarder la pièce une fois, deux fois, ça m'a donné une idée de la chose, sachant que c'était pas à mon époque. Et donc, pour moi, le théâtre, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable, que ça vit, en fait. Pour moi, le théâtre, ça vit.
Et vous auriez envie de faire renaître quoi sur scène?
Moi, le théâtre, à la base, moi, je dirais pas que j'ai choisi le théâtre, mais je pense que le théâtre m'a choisi, parce que à la base, j'ai jamais fait de formation de théâtre à la base, mais j'ai côtoyé des gens qui faisaient du théâtre, parce que à travers ça, j'ai commencé à connaître un peu le théâtre, et puis j'ai commencé à m'intéresser. Et au fil des temps, en m'intéressant, j'ai commencé à comprendre que waouh, en fait, l'image que j'avais du théâtre, c'est pas ça, en fait, parce que moi, j'avais une autre image du théâtre, dans le sens que moi, je viens d'un pays où le théâtre, on a une autre image du théâtre, tu vois.
C'était quoi l'image?
L'image, c'était que des comédiens qui faisaient rire, et puis on se déplace, on dit bah ouais, écoute, on va les regarder du théâtre, ça va nous faire rire, tu vois. Et en arrivant ici, je comprends que le théâtre aussi a un autre visage, qui est dans le sens de qui peut dévoiler des choses qui sont réelles, ou des choses que les gens ils ignorent que ça existe, en fait. Pour moi, les anciens, ça fait partie du nouveau, comme des nouveaux, ça fait partie des anciens. Parce que, un exemple, on va pas dire parce qu'il est vieux, donc il n'est plus de notre époque. Évidemment, il est de notre époque parce qu'il est là. Il a vécu sa période, il va vécu ta période aussi. Donc, je pense que c'est ensemble que ça travaille. Donc, le théâtre, ça fait vivre tout ça aussi, quoi.
Anouk Grimbert, Emmanuel Mérieux, à votre avis, elles correspondent à quoi les larmes du public quand il y en a? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions.
Ce qui est bizarre, c'est que de faire revivre des choses douloureuses ne fait pas que de la douleur. Ça fait vivre. Ça fait que, au lieu que ce soit enfermé au dedans comme une pierre lourde, ça se met à respirer. Même un drame, dès lors qu'on le représente ou dès lors qu'on le voit représenté et que c'est pas et que c'est bien fait, eh ben, on se sent mieux. C'est bizarre.
On va se décoller du réel pour arriver sur une scène onirique avec Charles Bourdon, à l'origine du projet Youngerson, qui nous fait suivre le chemin imaginaire d'un jeune homme dans un monde de rêves. Et Charles, quand il est arrivé en studio, nous a dit « C'est incroyable parce que je suis en train de lire la fin de L'Homme Rouge ».
Oui, en effet, oui, c'est assez surprenant. Mais j'aime, c'est un fait glissade, en fait. C'est une chose, ça fait un peu surréaliste, en fait, le fait de venir jouer, de parler justement de ce livre que je suis en train de lire, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Il y a des phrases et des mots ou des récits qui vous habitent?
Si, j'étais particulièrement touché par, c'est rigolo parce que du coup, vous parliez tout à l'heure de la cuisine, de la répétition en fait dans la cuisine, et en fait il y a cette évocation des cuisines en fait où se regroupaient les gens pour pouvoir parler assez librement par peur d'être d'avoir des mouchards partout dans les autres pièces et cette espèce de cercle des cuisines disparues et voilà m'a assez touché. J'aime beaucoup ce passage là. Voilà, cette évocation là.
Et ce morceau qu'on va entendre s'appelle Cold Harmonies.
Cold Harmonies, oui. Ouais. Donc je suis Charles de Youngerson et nous sommes en studio avec Emmanuel Mérieux, Anouk Grimbert, Richard Maxwell, Moussa Doucouré. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charon.
Tired eyes, mad guys all around the shore, and waiting in line, black ties that want some more, and cocaine bums at the break of dawn, and fighting each other for the crystal crown. A deaf child is playing on the beach. No mother, no father, but the friendly sea. Cold harmonies, cold harmonies in a secret box. Will you meet me on a secret rocks? And all you've got is dream and there's nothing left. And so much love I got to forget. A memory can climb to my window, but I'll always shut your mouth and close the door. Cold harmonies, cold harmonies in a secret box. Will you meet me? Will you meet me on a secret rock? Cold harmonies, cold harmonies in a secret box. Will you meet me? Will you meet me on a secret rock? Thank you. deep in mine. There's so much love you can't leave behind. Meet me at the corner, meet me at the break of dawn. I'll hate you, I'll love you, I'm so alone. Cold harmonies, cold harmonies in a secret bar. Will you meet me on a secret road? Cold harmonies, cold harmonies in a secret bar. Will you meet me on a secret road?
On va partir à Aubervilliers, nous sommes avec Jack Ralit et c'est en 1993.
Alors la démarche humaine, c'était pas qu'à Aubervilliers, ça faisait de quelle
façon ? C'était allé partout. Là, alors tous les deux, on peut dire qu'on connaît Aubervilliers parce
qu'est-ce que vous faisiez ?
On a dû faire pas mal de ressemblages. je sais bien qu'on avait une voiture, mais quand même, on allait au porte-à-porte dans les HLM, on allait dans tous les comités d'entreprise du coin, je dirais le coin parce que c'est Aubervilliers, et alentour. Et on discutait, et on discutait. Et alors les gens, ils nous accueillaient. Et ils nous accueillaient un petit peu comme s'ils avaient un rendez-vous avec la dignité. Parce que jusque-là, Aubervilliers, c'était, ben, c'était ce que chantait Prévert. Ce qui n'est surtout pas oublié. Mais ce qui ne peut pas résumer Aubervilliers. Alors c'était un élément de dignité qu'ils recevaient. Et moi, je me rappellerai toujours des commerçants d'Aubervilliers qui, quand on leur demandait pendant les vacances « Où habitez-vous » et qui répondaient avec un courage un peu lâche, à la Villette, pour laisser une douce ambiguïté entre Aubervilliers et Paris, du jour où Gabriel Garand s'est installé et où, de lui et de son travail, il fut parlé fort dans la presse, notamment à partir de Charles XII, en 63, eh bien, il disait Aubervilliers, et parce qu'il disait, il disait, c'est là où il y a ce fameux théâtre. Parce qu'au début, non seulement il a été accueilli pour ses qualités, mais il a été aussi accueilli au-delà, je dirais, de ses qualités. Le Figaro avait fait un article, on aurait juré qu'on avait fait la révolution culturelle. On a même été obligé, par honnêteté, parce que c'est un homme honnête comme je le suis, on est des hommes, je trouve, de rigueur mentale et d'indignation morale.
Entendez donc la voix de Jack Ralit qui a fondé avec le metteur en scène Gabriel Garand ce premier centre dramatique national en banlieue de Paris à Aubervilliers, le théâtre de la Commune en 1960. Vous, Richard Maxwell, vous arrivez des États-Unis, vous êtes invité à Aubervilliers pour faire cette pièce d'actualité dévoilée. Et puis une des premières questions que vous posez en arrivant, c'est qu'est-ce que vous feriez de ce lieu, de ce théâtre, si on vous en donnait les clés ? Pourquoi ça a été la première question que vous aviez envie d'adresser ?
Parce que mon impression,
ayant fait quelques spectacles à Paris dans ces théâtres nationaux qui entourent Paris dans la banlieue, l'intention était, je pense, d'amener la culture dans les zones extérieures autour de Paris.
My impression is that this,
mon impression
was not so successful.
Est que ça n'a pas vraiment été un succès.
Or at least it might have started
plutôt,
out successful.
Peut-être que ça a commencé par avoir du succès.
But in as the communities themselves
mais
have changed in terms
au fur et
of
à mesure que les communautés ont changé par rapport à qui les compose, ces communautés. Il y a eu une espèce de clivage entre les théâtres nationaux et les populations des endroits où sont ces théâtres.
So I was surprised,
alors,
when I visited Aubervilliers,
j'ai été surpris quand j'ai visité Aubervilliers et la commune,
to Meet Marie José and learn that
de rencontrer Marie-José et d'apprendre que
the idea of connecting to the community que, was not just a
que
gesture.
L'idée de se connecter, de se lier à la communauté là-bas n'était pas simplement un geste.
But actually, the heart and soul of the art itself.
Mais vraiment le cœur et l'âme de l'art.
And if we look at Aubervilliers today,
si on regarde Aubervilliers aujourd'hui,
there is a rising population,
il y a
from the Maghreb,
une population grandissante du Maghreb, Africa. D'Afrique noire.
And this was bridged, I think, because Marie-José had the good idea to start.
Marie-José a eu bonne idée de fonder l'École des Actes, qui a créé un pont, je pense.
Marie-José Malice, qui dirige aujourd'hui le théâtre de la Commune.
Yeah, she's the artistic director.
Oui, c'est la directrice artistique.
And I should say that je dois dire que was extended to me
quand
to
on
make
m'a
a show,
invité à créer un spectacle à Aubervilliers,
it wasn't to do this piece to actuality.
Ce n'était pas pour faire une pièce d'actualité.
It wasn't to work with the people
ce
that the theater
pas
had started to
pour
work
travailler
with
avec les gens avec qui travaillait déjà le théâtre, les gens de la communauté.
It was left open to me to make whatever show
c'était
I wanted
ouvert.
To do.
Je pouvais faire le spectacle de mon choix.
But surprised, I was impressed.
Mais j'étais surpris et impressionné
with this relationship,
par ce rapport.
I was invited to go to the school.
J'étais invité à aller à l'école.
And I should say that I don't. You might have figured out by now that I don't speak French.
Vous avez peut-être compris maintenant que je ne parle pas français.
When I saw École des Actes, I thought
mais
it was an acting school.
Allé, quand j'ai vu École des Actes, je pensais que c'était une école où on apprenait à jouer la comédie. Acting. Act.
So the fact that it's this, action school,
le fait que c'est plutôt une école d'action
where they teach people how to read
où on
and
apprend
write,
aux gens à écrire et à lire
and help them with issues that might come up.
On les
for
aide
example,
avec des problèmes qui pourraient arriver si par exemple on est arrêté pour un contrôle par la police.
It started to make sense to me that she would start
the
school as a way to make a connection to the work in the theater.
Marie-José pourrait fonder cette école pour justement faire un rapport, un lien entre la communauté et ce théâtre.
L'École des Actes, ça existe depuis 2017 à Aubervilliers. Et pour en dire un mot, c'est un lieu de rencontre pour inscrire le théâtre dans la ville où on parle beaucoup de vie collective, d'expérience et où en effet on peut pratiquer aussi la langue française. Donc c'est un lieu de rencontre avant tout qui a été créé à partir de ce théâtre. Et Moussa Doucouré, vous avez répondu comment à cette première question? Qu'est-ce que vous feriez si on vous donnait les clés du théâtre, de ce bâtiment?
Et ma question, c'était parce que, à la base, moi, je suis arrivé ici, j'avais personne, en fait, à qui parler ou à quoi faire. J'ai passé des moments hyper difficiles, qui étaient assez nuls. Et par rapport à ça, je me suis retrouvé à Aubervilliers avec des amis dans un squat. Et vraiment, c'était pas la vie qu'on rêvait du tout, mais avec une solidarité, avec l'entraide que on arrivait à s'en sortir ensemble comme ça. Et donc, quand on m'a posé la question, si jamais on te donnait la clé du théâtre, que ferais-tu? J'ai juste répondu, parce que, voilà, mes amis, ils sont comme mes frères, mes soeurs, mes amis, parce que c'est eux qui sont là pour moi quand je suis malade, quand il y a un problème, c'est eux qui sont là. Donc si on me dit de faire quelque chose, alors je me reconstruis vraiment un endroit où on pourrait vivre, et même pas pour nous seulement, mais tous les gens même qui sont à Aubervilliers ou ceux qui sont dans le besoin, t'es dans le besoin de logement, des trucs comme ça, de créer quelque chose ou créer aussi un loisir, où c'est les familles qui n'ont pas plus de moyens pour que ça soit vraiment un lieu de partage où on pourrait discuter, où on pourrait se rencontrer. Parce que pour moi pas, j'ai l'impression que c'est ça qui manque au monde aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de communication. On a tendance à regarder les gens et puis à juger vite quoi. Mais si tu discutes avec lui, tout cela, il est capable de quoi, ou ses capacités. Et donc, quand on m'a dit, on me donne ça, j'ai dit non, je vais construire une maison, je vais pas la démolir, mais je vais essayer de reconstituer des chambres où on pourrait être à l'aise, où on pourrait avoir une maison, où on peut se poser la tête, parce que c'est avec une maison qu'on peut se poser, réfléchir, qu'est-ce que je dois faire, où je dois partir. Mais c'est une maison, tu sais pas où aller, t'es vraiment perdu, nulle part ailleurs, parce que c'est ça qui m'est arrivé quand j'étais à Sénine.
Richard Maxwell, je crois que votre père était juge, mais aussi acteur, amateur. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette notion d'amateur? Parce que vous avez souvent travaillé avec des acteurs qui n'étaient pas professionnels. Et vous dites, j'aime bien travailler avec des gens qui sont d'abord réticents à monter sur scène. Pourquoi?
I think it's the tension.
Je pense que c'est la tension
that exists when
qui existe
you say no, I don't
quand
do that.
On dit non, je ne veux pas faire ça.
It's immediately interesting.
C'est immédiatement intéressant, right?
Like,
n'est-ce
why,
pas
why, no, why,
pourquoi
why not,
pourquoi pas
but it's funny because my father,
c'est drôle parce que
he would often
mon père
make me perform
souvent
for him.
Me faisait jouer pour lui.
And that was something I was always reluctant
et c'était
to do.
Quelque chose que je faisais toujours avec réticence.
I'm listening to this conversation.
J'écoute
about,
cette conversation
storytelling and,
sur le fait de raconter des histoires, d'habiter des personnages, d'avoir une deuxième chance.
And if you, whether you're amateur or not,
qu'on soit amateur ou pas,
as soon as you step up on stage,
dès qu'on monte sur scène,
it's automatically a new life.
C'est automatiquement une nouvelle vie.
It's automatically,
c'est automatiquement.
It's not second, it's not third.
Ce n'est pas it's une seconde ou troisième, c'est rien, c'est.
So it makes me wonder what our job is.
Donc
as
ça me fait me demander quel est notre travail en tant que gens qui créent du théâtre.
And I agree with what's being said about
je suis d'accord avec ce qu'on est en train de dire sur ce qu'on devrait faire avec un théâtre, quelle utilisation il devrait y avoir pour un théâtre.
I can't think of a better reason.
Je ne peux pas penser à une meilleure raison aujourd'hui, à notre époque, que de permettre aux gens d'habiter dans le théâtre. Ce que, par ailleurs, Marie-Josée et la Commune ont fait.
And so, I guess regarding the question about amateurs,
par rapport à la question des amateurs,
I'm never convinced,
je ne suis jamais convaincu
that we need to try to make fiction,
qu'on a besoin de créer de la fiction,
that we need to make a story,
qu'on a besoin de créer une histoire.
But I do think it's interesting,
mais je pense par contre qu'il est intéressant
working with people who,
de travailler
don't have, training,
avec des gens qui n'ont pas été formés,
where these impulses might come from,
de voir d'où viennent ces instincts, comment on arrive du point A au point B.
Et dans la pièce dévoilée, Richard Maxwell, finalement, les comédiens n'incarnent pas des personnages, mais ils se relaient pour raconter une histoire ensemble, parce qu'ils vont raconter l'histoire de ce jeune homme qui arrive justement à Aubervilliers sans argent, sans rien, et puis finalement on remonte à l'origine de son histoire, de son départ dans son pays, de ce qui lui est arrivé, et puis on se sert de toutes les conventions du théâtre, ce qui veut dire que si on met trois chaises et une table et qu'on se dit qu'on est dans un pays étranger en train de discuter d'argent avec un passeur, ben on y est. Si on se lève et qu'on dit allô, on est vraiment au téléphone. Si on se dit je traverse la mer, eh bien on est vraiment en train de la traverser. Et donc vous jouez avec tout ça. Et eux sur scène se relaient pour raconter cette histoire. Comment vous avez travaillé justement pour leur transmettre ces outils très simples du théâtre pour tous ensemble recomposer une histoire?
It starts with the building itself.
Ça commence avec la structure, l'immeuble
the
même.
Theater building was
la structure du théâtre
to tell
a été créée pour raconter ces histoires, pour disparaître dans ce fantasme romantique avec les toiles de fond qu'on peut mettre en place, qui peuvent être appuyées ou chargées, le plateau avec son sol noir, les chaises en velours qui sont face au plateau. C'est une idée ancienne, bien sûr. C'est aussi une idée européenne de ce que c'est, comment on doit raconter une histoire. Donc, dans nos conversations au début, on a pris tout cela en compte et on s'est demandé,
let's take advantage of what's available to us.
Profitons de ce que nous avons qui peut nous aider pour raconter l'histoire.
But let's also investigate what else is
available to us. Examinons aussi ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait prendre pour partager cette histoire.
Et il y a aussi cette simplicité dont on parlait avec Anouk Grimbert et Emmanuel Mérieux. Il n'y a pas de simulation d'émotion, il n'y a pas d'effet. Il y a une parole très sobre qui raconte, et ensuite les émotions, elles se créent ou elles existent à partir de ça chez le spectateur.
I don't agree.
Je ne suis pas d'accord.
I think I know what you mean, but actually,
je pense que je sais ce que vous voulez dire.
And Moussa should answer this.
Et en fait, Moussa devrait répondre.
And he kind of has already.
Et il l'a déjà un peu dit.
There's quite a bit of acting going on.
Il y a pas mal de comédie, d'interprétation qui se fait dans le spectacle.
Moussa Doukouré, vous aviez une appréhension à monter sur scène, à aller jouer. Ça faisait peur ou ça faisait envie ou c'était...
Et vraiment, comme il avait dit, on a eu une discussion d'abord, avant de quoi qu'il arrive, on a eu une discussion, on a discuté avant de faire quoi que ce soit. Et donc, si je peux me permettre, Emmanuel et puis Anouk, ils avaient dit quelque chose qui était beau, parce que avec le théâtre, même truc dramatique, on peut le faire avec l'humour, tu vois. C'est qu'on a tous des parcours un peu difficiles à notre gens, mais avec le théâtre, on arrive à gagner de l'humour, à gagner confiance de Richard Maxwell, à se dévoiler et à monter une pièce. Et donc, au bout d'un moment, c'est quelque chose que ça nous plaît. Donc, le théâtre, c'est ça, en fait. C'est un outil où les trucs qui sont dangereux, qu'on peut rendre ça plus facile, comme les trucs qui sont faciles, on peut rendre ça encore plus difficile. Et donc, ce système, vraiment, nous, on le fait vraiment avec des trucs doux. Humour, vraiment, c'est quelque chose qui est un peu... ça, on fait vraiment avec humour, parce que j'aimerais que vous venez voir et puis après, vous poserez des questions si vous avez le temps.
Et comment ça s'est créé au fil des répétitions, la construction de cette histoire, tous ensemble? Parce que j'ai eu la chance de voir une petite vidéo de répétition, comme le spectacle n'a pas encore commencé. Et comment vous avez, puisque tous ensemble vous recomposez cette histoire et que vous jouez pour raconter l'histoire de ce jeune homme, comment ça s'est construit petit à petit?
Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est Richard Maxwell. Moi, je l'ai trouvé hyper impressionnant sur ce sujet-là, parce qu'au début, je me suis dit, bah écoute, ça, je pense pas si ça va être quelque chose, il faut écrire quelque chose. Il a dit, non, on n'écrit pas quelque chose, on va écrire ensemble. Et au fil des temps, on a commencé à réfléchir ensemble, et on a commencé à dire, bah écoute, plus on réfléchit, on essaie de monter sur scène, et on voit qu'est-ce que ça donne. Et au fil et à mesure, on a commencé à trouver des formes. Et sinon, vraiment, moi, j'ai trouvé ça impressionnant, parce que je m'étais posé la question, mais ce metteur en scène, comment il travaille, lui? C'est que lui, c'est que, voilà, il vient, et je dis, bah non. Mais après, je me suis renseigné un peu sur comment il fonctionne. Effectivement, c'est comme ça, il fonctionne un peu, c'est pas qu'il déteste, il va à la maison, il écrit tout, et puis il vient, il dit, bah, écoute, on va jouer, et voilà, t'as ton rôle. Mais c'est, pour moi, j'ai trouvé, travailler avec lui, on était plus naturel parce que on était relax, on se disait, parce que c'est une discussion, on est en train de monter quelque chose ensemble, il n'y a pas de, bah ouais, c'est lui qui gère tout, non. Mais c'était vraiment, j'avais jamais travaillé avec quelqu'un qui est aussi relax encore. Et lui, quoi, de nous laisser le choix de ce qu'on pense, ce qu'on a envie de faire, et puis on essaie de décortiquer ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça bien.
Richard Maxwell, cette question « Comment être utile ?», je ne sais pas comment vous y répondez aujourd'hui, mais vous parlez aussi de ces espaces, puisque vous avez l'habitude de travailler à New York et qu'on parle là d'espaces de théâtre. Et vous parlez de la disparition des friches urbaines, des lieux qui pouvaient être des lieux libres ou abandonnés, ou qu'on pouvait investir de façon différente et peut-être collective. Comment vous vivez ça, vous, à New York, là où vous habitez, l'évolution de ces espaces et de la façon dont on peut s'en emparer?
I never really thought that.
Je n'ai jamais vraiment pensé que s'intéresser aux espaces oubliés ce serait politique, pourrait dire que c'est politique, peut-être quelque part au fond de mes pensées, mais avec le changement d'époque, il semble que ça a pris une signification politique.
I would see an image, for example,
par exemple, je verrais une image
in downtown New York,
du centre de New York,
of a loading dock
d'un quai de chargement avec juste une ampoule.
It's empty, it's quiet, there's nothing
vide,
going on.
Calme, il ne se passe rien.
A lobby of a bank.
Ou alors simplement l'entrée d'une banque.
Or an apartment building with fluorescent light, a lobby there with a security guard sitting by himself.
L'entrée d'un immeuble résidentiel avec un garde tout seul et des fluos.
I never thought about that as political.
Je n'ai jamais pensé à tout ça comme étant politique. J'aime juste l'image.
And so I think it takes on a certain significance.
Je pense que ça prend un sens.
One of the things that has given the work we're doing in La Commune
des choses qui a donné un sens au travail qu'on fait à la commune
et un objectif,
c'est une espèce de synthèse, je pense, de l'image et de la situation. Et là, je peux comprendre maintenant le sens politique de cela. Mais je pense aussi à Sean Penn dans le film Fast Times at Ridgemont High.
Et
je me demande quel est le sens politique de ça rétrospectivement. Mais c'est intéressant de mettre en pratique cette notion sur des œuvres qu'on a mis de côté, disant qu'elles ne sont pas politiques, voyant de la perspective d'aujourd'hui.
Moussa Doucouré, vous avez l'impression que cette pièce dévoilée, ce que vous avez créé tous ensemble, ça va créer quoi chez les spectateurs ? Vous espérez quoi ? Parce que là, ça n'a pas encore commencé. Mais qu'est-ce que vous aimeriez que ça provoque comme pensée, comme idée, comme émotion ?
Ah là là. Je ne sais pas quoi répondre parce que on a envie de toucher le spectateur. On a envie qu'il se sente bien. Mais je sais... J'ai pas de exigence en fait. J'ai pas de exigence parce que c'est compliqué, parce que chacun a sa manière d'avoir des émotions aussi, des choses. Et donc je sais pas à quoi répondre précisément, mais si c'était pour ma part personnelle, je dirais que j'ai vu que le spectateur se sent concerné, que il y a quelque chose qui est là, quoi. Il y a quelque chose qui existe, que ça, faut pas que ça passe inaperçu, parce que la pièce, ça parle des gens qui ont des passés difficiles, en fait. Et donc, après, tu peux pas, je sais pas, de demander à quelqu'un, ouais, il faut que tu t'occupes de moi, ou il faut que tu fasses ça, c'est un peu difficile de dire ça. Mais si ça vient de ta propre volonté, c'est plus beau, tu vois. Mais je pense que, l'idée, c'est ça, c'est que ça touche les consciences, tu vois. Mais après, forcément, je sais pas que j'attends quelque chose, mais s'il y a quelque chose, ça me fait plaisir.
Домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь. На все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, видишь ты. Кто влюблен?
Richard Maxwell, vous avez envie d'ajouter un mot?
Yes,
oui,
it's important.
C'est important.
The stories that we're telling,
l'histoire qu'on raconte,
les histoires qu'on raconte,
parle d'un squat qui est à Aubervilliers.
It's
c'est le squat Schaeffer.
Squat Schaeffer. And, some of the members,
certains
of our team,
des membres de notre équipe
have lived there,
ont vécu là-bas.
And one person et lives there currently.
Une personne y vit encore.
And this squat is under threat.
Et ce squat est menacé.
They have the threat of eviction.
Ils sont menacés d'expulsion. Elle est toujours présente. Et je veux juste dire
with my visit
qu'avec
conversations
ma
about
visite,
squat, I think it's,
les conversations que j'ai pu avoir,
unique.
Je pense que c'est un squat unique
in part because of the work, the partnership
en partie
with the École des Actes,
grâce au partenariat avec l'École des Actes.
And, they have, for example, created
ils ont,
their own constitution,
par exemple, créé leur propre charte,
a set of rules, they maintain
des règles.
The space,
ils gardent la structure en bon état.
There are 150,
il y a 150
there.
Personnes qui habitent dans cet endroit.
And it functions.
Et cela fonctionne.
And it has a kind of sovereignty.
Et cela a une espèce de souveraineté.
And I think it needs to be recognized.
Je pense qu'il faut
protected.
Le reconnaître et le protéger.
Because they are occupying
parce
an ex supermarket.
Ils occupent un ancien supermarché.
And Moussa, what's Moussa, the can you give the address
tu
of where
peux donner l'adresse de cet endroit s'il te plaît?
En fait, il y a deux adresses parce qu'il est situé entre Aubervilliers et La Courneuve. Et la première adresse, c'est 22-24 rue Saint-Denis, Aubervilliers. La deuxième, c'est 30 rue Vladimir. Si tu me permets, je vais les regarder vite fait. Et voilà, 30 rue Vladimir Courneuve.
Merci beaucoup Moussa Doucouré, Richard Maxwell. Dévoilé, c'est au Théâtre de la Commune à Aubervilliers et c'est du 26 septembre au 6 octobre. La fin de l'Homme Rouge, mise en scène par Emmanuel Mérieux, c'est au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 2 octobre à Paris. La version radiophonique que vous allez réaliser avec Alexandre Planck pour Théâtre et Compagnie, ce sera le 8 décembre à 21h sur France Culture. Je dis merci à Lionel Quentin pour la réalisation de cette émission. Merci à Inès Dupéron pour la préparation. À la technique ce soir, merci à Guillaume Ledu et à Arbou Khalifa. Bientôt, il sera 21h. Vous écoutez France Culture. C'est l'heure de Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson.
Кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто